Donc notre lettre, on a dit, la lettre numéro 32, qui est la dernière lettre de Guéret HaKodesh. Avec ça, on terminera Bezrat Hashem, entre aujourd'hui ou la semaine prochaine, on terminera la dernière lettre de Guéret HaKodesh. Et donc on s'approche de la fin du Tanya. On a expliqué que dans cette lettre, l'Admor HaZaken, il va parler principalement de la mitzvah de Tzedaka. Mais le chidouche de cette lettre par rapport aux autres lettres, on a parlé de la mitzvah de Tzedaka, c'est que dans toutes les autres lettres, il a encouragé les chassidim à donner la Tzedaka. Et là, ce qu'il va encourager, il va encourager les chassidim au fait que des fois, il faut savoir faire une mitzvah sans qu'on ait besoin d'y être encouragé. Et donc, de ça, il va partir dans tout un développement pour expliquer qu'est-ce qui est plus important. Est-ce que c'est plus important quand on m'a demandé de faire quelque chose et que je l'ai fait? Ou c'est plus important quand on m'a rien dit et de moi-même, en moi-même, j'ai compris que je devais faire la mitzvah? Alors, il va expliquer qu'il y a des qualités dans l'un, il y a des qualités dans l'autre. Mais la conclusion de, je pense, la conclusion de Guéret HaKodesh va être que c'est extrêmement important de s'habituer à essayer de faire les mitzvot sans attendre que quelqu'un nous demande de les faire. Donc là, il va parler sur la tzedaka, mais ça va pas que sur la tzedaka. Ça veut dire qu'il faut apprendre à trouver les forces en soi et de pas attendre qu'un rav te demande de faire, qu'un rabbi te demande de faire. C'est un petit peu, c'est un peu comme le testament du Admor HaZaken. L'Admor HaZaken, il était vivant à ce moment-là. Il s'adresse aux chassidim, mais il veut leur faire comprendre. Ne soyez pas là toujours à attendre des instructions, et quand il n'y a pas d'instructions, il n'y a pas de boulot. Hein, comme les employés. Le patron, il est là, il donne les instructions, il y a le boulot. Dès que le patron, il n'est pas là, il est fatigué, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de boulot. Donc là, exactement. Mais c'est pas négatif, pas dans le sens négatif. Pas dans le sens négatif que c'est les employés qui profitent que quand le chat n'est pas là, la souris danse. C'est simplement que des fois, on développe une certaine accoutumance, j'ai envie de dire, et qu'on n'arrive pas à se développer tout seul.
Une dépendance.
On n'arrive pas à se développer tout seul sans qu'un rabbi nous le demande, sans que notre père nous le demande, sans que le rav le demande. D'accord? Exactement. Et bien là, va expliquer l'Admor HaZaken qu'à un certain moment, il faut passer à la vitesse supérieure. C'est quoi la vitesse supérieure? C'est commencer à apprendre, à réfléchir, à faire les choses sans qu'on nous les demande. D'accord? Et Bezrat Hashem, dans ce cours, on essaiera de faire un rapport avec les trois Tammuz. Dans la semaine dernière, c'était l'Aïloula, et c'est pour ça qu'il n'y a pas pu avoir cours. L'Aïloula du rabbi. Et on va voir que dans l'enseignement du rabbi, c'est quelque chose que, j'en ai parlé un petit peu Shabbat, dans l'enseignement du rabbi, c'est quelque chose qu'on voit de manière très puissante. Que le rabbi, il poussait beaucoup les gens à faire les choses d'eux-mêmes. Mais vraiment, ça veut dire très souvent, il y avait une fois par exemple, un père qui était accroché avec son fils. Et il a dit au rabbi, il est venu voir le rabbi, il a dit, rabbi, est-ce que vous pouvez dire à mon fils de faire ça et ça? Parce qu'il était sûr que si, venant du rabbi, c'est clair que le fils allait écouter. Ouais. Et bien, le père avait raison. Le père avait raison. Que bon, je me rappelle plus exactement les détails de l'histoire, mais je me rappelle que quand j'avais lu l'histoire, le père avait raison. Le fils, bon, il avait une crise d'adolescence ou je ne sais quoi. Donc il a dit au rabbi, il a demandé au rabbi, il a dit, dites à mon fils de faire ça et ça. Le rabbi, il a répondu comme ça. Il a dit, moi, je donne pas d'ordre. Moi, je suggère. Il y a pas d'ordre. C'est pas, je dis lui de faire ça. Il y a pas d'ordre. Et même une suggestion, et encore. Et encore. On voit que les dernières années, en 89, c'est-à-dire que c'est parmi les dernières années où on a eu la chance d'entendre le rabbi. Le rabbi, une fois, il a fait une convention dans laquelle il a rassemblé les grands dirigeants de Chabad, et ce qui aujourd'hui Baruch HaShem continue. Et il leur a dit, je suis content qu'avec le temps, Gdaim Nasut Yashim, ça veut dire, les chevreaux sont devenus des grands animaux. C'est une expression talmudique pour dire que je suis content de voir qu'avec, après 40 ans de travail, maintenant, eh ben, on n'a plus besoin de donner des instructions sur chaque petite chose. D'accord? Les chassidim, ils ont déjà appris à réagir par eux-mêmes. Et c'est un petit peu le...
Il leur inspire.
Exactement. C'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin de leur dire. Que quand on connaît quelqu'un, quand tu sais exactement ce qu'il pense, t'as même pas besoin qu'il te le dise. Tu sais de toi-même ce que tu dois faire. Et ça, c'est le sens général de cette lettre qu'on va étudier aujourd'hui. Que, quelque part, à un certain moment, il faut arrêter d'attendre des ordres. Et il faut apprendre à être inspiré. Il faut apprendre à être inspiré par soi-même. D'accord?
Mais des fois, t'as des... Et ça, pas tout le monde l'a. Il y en a qui savent mener. Il y en a qui savent se diriger. Donc, il y en a où, malheureusement, ils ont besoin d'être menés.
Ben, il faut quitter ça.
Pas pour toi.
Mais non, ils sont comme
ça. Non, il faut quitter ça.
Non, il a raison.
Il a raison.
Les gens
qui ont besoin d'être menés. Il faut quitter ça.
Ils n'oseront pas le faire.
Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on obtienne une autonomie le plus tôt possible. Une autonomie, pas dans le sens qu'on est indépendant. Pas dans le sens qu'on est indépendant, qu'on a des comptes à rendre à personne et qu'on parle à personne. Non.
On va compter sur
dans le sens qu'on compte sur personne. Et qu'on se développe, on fait un travail personnel. C'est très important de faire un travail personnel. Ça, c'est un des grands messages de la Chassidut Chabad.
Non, mais le travail, il le fait personnel. Il est juste un petit coup de pouce, comme on dit. Parce que quand le rabbi, il le dit, il va pas avec lui le faire. Donc, tu vois bien que la chose qu'il a fait, il le fait personnellement.
Ah, c'est ce qu'il va expliquer ici. Il va expliquer ici la différence qu'il y a quand un travail est fait suite à une demande d'un rabbi ou quand un travail est fait suite à une démarche personnelle, donc une démarche de la personne. Alors on y va. Barer Hashem Chelam, vous avez dans les mots ? On est à la page, quelle page ?
304.
304, ah ben c'est bien, c'est rond ça. Alors, Lechaim, Lechaim, David. Il est où ton verre, David ?
Il est noyé.
Il est noyé, d'accord. Allez, Lechaim.
Il est caché.
Youssef, il revient chez le rabbi, il faut lui donner un peu Lechaim. En plus, Youssef, il m'a écrit tout à l'heure par SMS, il m'a dit... Quand j'ai commencé à assister au cours, de Tania, on étudiait le chapitre 32 du Tania. Et maintenant, aujourd'hui, on va étudier la lettre 32 du Tania. Donc, il y a la boucle qui se referme. 32-32. Alors, on y va. Barech Hashem Chelam, Ufoal Yadam Tirte. Donc, c'est une lettre dans laquelle Admour Hazaken dit au Chassidim, il leur dit, apparemment, visiblement dans cette lettre, pour la première fois, l'Admour Hazaken est content de la collecte des Chassidim. Jusqu'à présent, à chaque fois, il disait, il faut donner, et même si c'est pas, même si la parnasse c'est pas comme avant, il faut quand même donner. Bon, il y a plusieurs lettres, on a vu où il a tapé, il a dit, il faut donner, quoi, mais il faut pas réduire. Là, visiblement, vous allez voir dans les nuances de cette lettre, on comprend qu'il est content de la manière comment les chassidim ont donné, et c'est pour ça qu'il pousse les chassidim à passer à la vitesse supérieure. Il leur dit, bon, vous avez donné, Baruch Hashem, vous avez été à la hauteur, mais bon, on a dû quand même vous booster. Maintenant, la prochaine fois, il faut pas qu'on vous booste, il faut que ça vienne de vous-même. Et pas que pour la tzedaka, pour toutes les mitzvot. Donc, Barech Hashem Chelam, Ufoal Yadam Irtze. Que Hakadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il accepte l'action de vos mains. Les Ratzon Laem Lifnei Hashem Tamid et que Dieu fasse que tout ce que vous faites soit toujours agréé devant Hakadosh Baruch Hu. Koiten Vecho Yosif Hashem Laametz Libam Begiborim. Que Dieu fasse que votre cœur arrive toujours à se renforcer contre le Yetzarara. Unediv Al Nedivot Yakum et que votre cœur arrive à toujours à associer générosité à générosité, ça veut dire à être toujours généreux, généreux, généreux. Liot. Gadol a measé, bechol iruminyan. Alors là, maintenant, on va faire un petit cours de grammaire. En hébreu, il y a maasé et il y a measé. Les deux s'écrivent exactement de la même manière. Mem, raïn, shin, donc sin, et he. Mais avec la ponctuation, ça change complètement le sens du mot. Maasé en hébreu, c'est quoi? C'est une action. Mé'assé, ça veut dire quoi?
De faire.
Celui qui fait faire d'autres personnes. Mé'assé. Mé avec un sheva. D'accord? Mé'assé. Celui qui fait faire. Alors que ma'assé, c'est l'action, celui qui agit. Vous voyez comment, avec la ponctuation en hébreu, je répète. Ma'assé, c'est une action. Mé'assé, c'est celui qui pousse une personne à faire une mitzvah. Maintenant, écoutez bien quelque chose de très important que dit l'Admor Hazaken. Il dit des fois, nous-mêmes, on ne peut pas faire une mitzvah. On va parler de la tzedaka, mais c'est pas que la tzedaka. Des fois, nous-mêmes, on peut pas faire la mitzvah, mais on va encourager quelqu'un à faire une mitzvah. Quel mérite on a? D'accord? Te dis l'Admor Hazaken, c'est très fort ce qu'il dit ici. Quand tu as encouragé quelqu'un à donner la tzedaka, pour parler que de la tzedaka, c'est considéré comme si c'est toi qui as donné la tzedaka. À ce point-là. Quand tu encourages quelqu'un à mettre les tefilines, c'est considéré comme si c'est toi qui as mis les tefilines. C'est un sroute pour toi. C'est-à-dire, Dieu te considère comme si que c'est toi qui as mis les tefilines. Pourquoi? Parce que tu es un mérassé. Mérassé, ça veut dire quoi? Celui qui fait faire. Donc, grâce à toi, la mitzvah a été faite. Et donc, en d'autres termes, l'Admor Hazaken s'adresse au Chassidim, il leur dit, maintenant, ce qu'on attend de vous, c'est que maintenant, vous devez être déjà convaincu, vous devez déjà avoir confiance en vous-même, comme on a parlé Shabbat, ne plus attendre qu'on vous donne des ordres, et que maintenant, c'est à vous d'encourager d'autres personnes. Du stade de mérassé, il faut passer au stade de mérassé. Du stade d'une personne qui agit, il faut passer à celui qui fait agir, qui encourage d'autres personnes à agir.
Tu passes les deux.
Bien sûr, les deux. Exactement. Ouais, c'est ça le. Bon, David, il a amené du monde au cours de Tania. C'est comme si que.
Comme s'il était seul, en fait.
Qui sans doute était machin. Ouais,
il nous a eu avec qui sans doute.
Il a encaissé grave pour nous mettre des olives.
Alors, non, mais là, ça va. Alors, on y continue. Donc, il dit, Liot. Gadol a me'asé, bechol ir ou minyan. L'importance du me'asé, donc ça veut dire de celui qui encourage d'autres personnes à faire une mitzvah, ça veut dire que visiblement lui-même il est déjà convaincu. Donc maintenant, son challenge c'est plus de se convaincre, son challenge c'est de convaincre d'autres personnes. Alors il dit ici, bechol ir ou minyan, v'techachev lo litzaka. Voilà, si vous voulez voir d'où j'ai tiré ça, c'est à la fin de la quatrième ligne. V'techachev lo litzaka. et que ça lui sera considéré comme une tzedaka. Ça veut dire encourager quelqu'un à donner la tzedaka, c'est considéré comme si moi je vais donner la tzedaka. Encourager quelqu'un à faire Shabbat, c'est considéré comme si moi j'avais fait Shabbat.
Donc si j'ai pas la tzedaka, mais j'encourage les autres.
Justement, t'as plein de gens comme ça. T'as des gens qui n'ont pas de quoi. Mais ils sont très forts pour encourager d'autres personnes.
Ah,
bien sûr.
Il a mis à point.
Oui.
Je croyais quand on était dans le temps, il y avait des gens qui faisaient Shabbat.
J'ai compris, mais après l'action a une limite. Là, par exemple, si on parle de la tzedaka, il y a une limite jusqu'à combien tu peux donner, après tu peux plus. Si on parle par exemple d'aider quelqu'un, pas seulement financièrement, d'aider même physiquement, il y a une limite jusqu'à où tu peux aider. Le fait d'encourager quelqu'un d'autre à aider, eh ben, c'est pas seulement qu'on te donne le sroud d'avoir encouragé quelqu'un, c'est que son action te sera attribuée. D'accord?
Quand tu encourages quelqu'un, il fait pas l'affaire.
Non, c'est pas une commission. C'est ça t'est attribué. Ça veut dire, on dit, c'est la mitzvah de Michael.
Quand tu encourages quelqu'un, il ne fait pas. Tu dis voilà, tu remets tes filles, ça, mais il ne fait rien, il s'en fout.
Alors, tu as toujours la mitzvah de Havat Israël. Tu as fait une mitzvah de Havat Israël. Tu as aimé ton prochain. Tu as essayé de l'aider. Mais si tu as réussi à faire, s'il a mordu l'hameçon, d'accord, et s'il a fait la mitzvah, là, dans ce cas-là, c'est qu'on appellera la mitzvah de Serge. T'imagines? Quand tu vas arriver en haut, on va dire hey, regarde, lui, il a fait Shabbat, la mitzvah de Serge.
Mandy.
Imagine la dédicace.
Ah, c'est bon. Une question. Est-ce que la tzedaka alors que la fille et le garçon ont fait la bat mitzvah ou même avant,
c'est pris en compte. C'est surtout après. Avant, c'est en tant qu'éducation.
D'accord. Donc
avant la bar mitzvah ou bat mitzvah, il n'y a pas d'obligation de donner la tzedaka, mais on habitue quand même les enfants à donner pour chinour. D'accord. Ouais. Mais c'est difficile à éduquer les enfants à ça parce que les enfants, un enfant par nature, il est égoïste. 100%. 1000%. Un enfant, il est égoïste par nature. D'accord. Après, il faut lui apprendre à ne pas être égoïste. Mais un enfant, par définition, il est égoïste. Il veut ses jouets, il veut ses trucs, il veut pas qu'on lui touche. Parce que l'homme n'est comme ça, c'est la nature de l'homme. Mais avec le temps, on apprend. Il y a toujours des choses qui ça le dérange pas qu'on lui prend.
Mais quand il y a des enfants qui ont un tempérament différent, machin, cache-là, il y en a, et j'ai Lorraine qui donne tout ce qu'elle a, qui est carrément. Et les autres, ils n'ont pas trop.
Mais il y aura toujours des petites choses, ça les dérange. Bon, c'est pas le sujet. Donc, Ve'ala Ose Nehemar, Sitkato, Omedet la Hat, Omedet la Shon Nekeva, Shemekabel Itorerut Libo Atahor, Migedol Ameasse, Afalpiket Omedet la Hat. Alors maintenant, je voudrais continuer. Est-ce que Tzedaka en hébreu, c'est masculin ou féminin? C'est masculin ou féminin?
Les deux.
C'est comme escargot. Ah. Féminin,
c'est sûr que c'est les deux. Comment on dit? Une tzedaka ou un tzedaka?
Une tzedaka.
En hébreu. Tzedaka achad ou tzedaka echad?
Mais t'es au pluriel.
Alors, a priori, la tzedaka, c'est féminin. Mais, écoutez bien, on voit dans la Torah, il va amener des références, qu'il y a certains endroits dans lesquels tzedaka, c'est employé au masculin. Pourquoi? Alors pourquoi des fois masculin, des fois féminin? C'est quoi la logique?
Quand c'est des bons cœurs, c'est masculin.
Alors non, c'est très simple. Il dit, c'est quoi la différence entre masculin et féminin? C'est quoi la différence entre le mâle et la femelle? C'est que le mâle, c'est un émetteur, la femelle, c'est un récepteur, on est d'accord?
Donc elle reçoit la tzedaka.
Donc, non, pas du tout. C'est quoi la différence entre, pourquoi des fois la tzedaka, la mitzvah de tzedaka, on l'emploie au terme féminin et des fois au terme masculin? Il dit, c'est très simple. Si j'ai donné la tzedaka sans que personne ne m'a encouragé, je l'ai fait de moi-même, là je suis un mâle. Je suis un homme. Ça veut dire que je suis un émetteur. Je suis pas un récepteur. C'est pas quelqu'un qui m'a encouragé, et moi j'ai été récepteur de l'encouragement et j'ai donné la tzedaka. Si j'ai donné la tzedaka sans qu'on m'a encouragé, là, dans ce cas-là, on appelle ça une tzedaka mâle, une tzedaka zaha. Mais si c'est une tzedaka, comme la majorité des cas, dans laquelle j'ai été encouragé, c'est-à-dire que ça a été provoqué. J'ai pas donné de moi-même. On m'a demandé, on m'a provoqué, on m'a poussé, etc. Là, dans ce cas-là, c'est pas une avéra, mais c'est comme ça que c'est dans la majorité des cas. Là, dans ce cas-là, on parle d'une tzedaka au féminin. Pourquoi au féminin? Ce qui va expliquer ici. Les deux ont une valeur.
Il a plus de valeur.
Les deux ont une valeur. Je t'explique pourquoi les deux ont une valeur. Parce que...
Non,
je pense que c'est pas tranché. Mais qu'à un certain moment, il faut que ça vienne de nous-mêmes. Je vais t'expliquer pourquoi c'est pas tranché. Parce que quand c'est une démarche personnelle, que j'ai décidé de moi-même, en tant que mâle, d'accord, en tant que zahar, j'ai décidé de donner la tzedaka. Comme c'est une démarche personnelle, c'est quelque chose que j'ai un grand plaisir quand je donne. Parce que c'est quelque chose qui vient de moi. Mais quand c'est quelque chose qui vient pas de moi, c'est quelque chose que... Je veux dire, je suis passif. C'est-à-dire, je marchais dans la rue et quelqu'un il m'a accosté. Donc je suis récepteur, je suis comme une femelle ici. Et on me demande de donner la tzedaka, et je donne. Quelque part, c'est plus difficile, parce que ça vient pas de moi. et je donne quand même. Donc il y a un autre route. Ah oui. Mais d'un autre côté, dans l'autre, ça vient vraiment du fond de son cœur. Il y a les deux, à mon avis, c'est les deux se tiennent.
C'est l'échement aussi quand tu donnes. Hein. Tu n'as pas donné parce que tu vas en faire quelque chose.
C'est, coup, c'est deux catégories différentes.
Même sans plaisir.
Oui.
Telle ou telle action, on t'a...
Là, c'est une tzedaka. C'est une tzedaka femelle. C'est une tzedaka femelle, c'est pas une tzedaka mâle.
Non, pourquoi?
Parce que j'ai pas décidé le matin en venant à la synagogue, ce matin, je donnerais 10 euros. Mais 10 euros, c'était dans ma poche. Il y a quelqu'un qui est venu, et comme il m'a touché, je lui ai donné.
Mais t'as gagné.
Donc, c'est une tzedaka femelle. J'ai été récepteur, et du coup, j'ai donné.
Une
tzedaka émetteur, si tu te lèves un matin, tu dis, aujourd'hui, j'allonge ça. C'est quand la dernière fois que vous vous rappelez? Moi, je me rappelle, mais ça fait longtemps que je me rappelle pas de ça. Un matin, tu te lèves, sans que t'as aucun appel, aucun email, aucun SMS. Tu rencontres personne. Tu te lèves un matin, et tu dis, j'allonge. J'allonge, je sais pas, j'allonge à un collège, j'allonge un peu de rabat, j'allonge à une yeshiva, j'allonge à qui tu veux.
C'est
très rare. Sans être sollicité. Non, mais c'est vrai. Quoi? Et pareil, il te sollicite.
Ah bon? À la maison, c'est pas comme considéré comme.
Ah ben non, il te sollicite. Sans sollicitation, ça veut dire que rien. Tu te lèves, t'es dans ton lit, tu te réveilles, tu respires, même pas pour remercier Akadosh Baruch Hu d'un miracle qui s'est passé. Comme ça, il n'y a rien qui s'est passé. Tu t'es pas accroché avec ta femme, t'as pas eu de bonnes nouvelles, t'as pas eu de mauvaises nouvelles, t'as rien eu. D'accord? Tu te lèves, spontanément, je donne 100 euros. Pourquoi? À l'aise, pourquoi? Ça n'existe pas.
Ah non, donc là, les sacs à la maison, c'est considéré comme femelle.
Bien sûr. Après, il y a femelle et femelle. Oui. Ah, bon.
Comment ça, le lendemain d'un cours, une fois,
ça veut dire qu'après, il y a des gens qui comprennent au quart de tour, et il y a des gens, il faut les pousser pour qu'ils comprennent. Tu comprends? Ça, c'est après.
Cette semaine, elle m'a donné. Ah, elle m'a dit, le lendemain d'un cours, ça m'est arrivé.
De quoi?
De donner comme ça.
Ah oui, lui, il prend les choses au mot, lui, il est.
Ah, mais écoute, je carrément pratique. Il faut mettre en action ce qu'on.
Il faut que ça vienne de nous. Bien sûr qu'on doit quand même donner. C'est pas que la prochaine fois que quelqu'un va me demander la tzedaka, je dis attends, ça vient pas de moi, je te donne pas, j'ai pas dit ça. Mais il faut quelque part s'habituer après. Pas que dans la tzedaka. Il faut s'habituer à faire en sorte que la mitzvah vienne de nous. Ça vienne de moi. Il va développer.
Mais donc. Le cas de tzedaka que tu dis là, c'est uniquement pécuniaire. Ou ça peut être
pas du tout. Du temps, d'abord, c'est pas que la tzedaka financière, ça peut être la tzedaka aussi de son temps. Et c'est même pas que la tzedaka, c'est toutes les mitzvot. Dans toutes les mitzvot, il y a la notion qu'en général, une mitzvah, elle a fait quand on est sollicité. Par exemple, demain matin, je vais mettre les tefilines. Pourquoi je vais mettre les tefilines? Parce que je suis sollicité, parce que c'est l'heure de mettre les tefilines. On est toujours sollicité. Ça vient jamais de moi. C'est pas que je me lève et je me dis, je veux faire la mitzvah.
Déjà pour se lever.
D'accord? Ah ouais, tu te lèves pendant la nuit à 4h du matin, il fait pas encore jour, tu dis, ah. J'attends de mettre les tefilines.
Alors
ça existe jamais. C'est exactement. Il a raison. C'est pas par hasard si c'est la dernière lettre du Tanya, parce que c'est quelque chose qu'il me dit. Il a raison. Il faut être honnête. Ça arrive jamais.
De quoi?
Vous savez, on raconte que.
Si
on raconte...
je me lève pour mes tefilines. Non. Je me lève super tôt pour aller prier.
Non. Pas tu te lèves pour mettre les tefilines.
Tu t'es levé à 4h du matin et tu attends 5h.
T'as une envie de mettre les tefilines.
Ah.
T'as mis ton réveil.
Vous savez, on raconte que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Il y a plusieurs versions de cette histoire, mais on raconte qu'Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il avait un grand amour pour les mitzvot. Et d'ailleurs, il tenait ce que le Harizal dit. Le Harizal, il disait que pour une mitzvah, il faut payer. Il faut payer cher. C'est une tradition qu'on a du Harizal, que pour une mitzvah, il faut payer cher. Comme ça, la mitzvah, c'est quelque chose de cher. Il faut payer. Pour faire une mitzvah, il faut payer. Pour les tefilines, etc., le lulav. Et on raconte qu'Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il dormait pas la première nuit de Sukkot. Pourquoi? Parce qu'il avait préparé son lulav, il avait préparé son etrog. D'accord? Et toute la nuit, il était impatient de faire la mitzvah du loulav le lendemain. Il était impatient, il dormait pas. À tel point il était impatient, écoutez cette histoire qu'on raconte, qu'une fois, sa femme, elle avait rangé son loulav et son etrog derrière la vitrine. Dans la salle à manger, il y avait une vitrine. Et le matin, dès que ça arrivait l'heure où il pouvait faire le loulav, tellement il voulait faire la mitzvah, il a pas vu le carreau. Il a mis la main, il a fait le loulav, il a tout fait. C'est ces élèves qui se sont dit, mais Rabbi, votre main, il y a du sang. Il a même pas vu qu'il y avait du sang dans sa main. Ça, c'est un autre niveau. Il a raison. Il faut vous dire la vérité. Ça, c'est un autre niveau, ça. Mais on peut dire que c'est une mitzvah mal. C'est pas une mitzvah femelle, ça. Ça, c'est une mitzvah. Le gars, il voulait la faire, la mitzvah. Bon,
Bah oui, c'est mal.
Ah oui, il reste toute la.
Il s'est fait mal.
Il s'est fait mal. OK? Donc, dans les mots. Est-ce que tzedaka, c'est mal ou est-ce que tzedaka, c'est femelle? Ça dépend. En général, tzedaka, c'est femelle. Ça veut dire que ça vient quand on est sollicité. On est récepteur. On a reçu une sollicitation et de ça on va donner. Mais c'est pas émetteur, c'est pas de moi-même que je vais donner. C'est pour ça qu'en général sur la tzedaka, je suis à la cinquième ligne. Vala o senemar, tzidkato o medet la'ad. Que cette tzedaka, en medet, elle tiendra au medet. C'est masculin ou féminin? Omed, omedet. Omed, c'est masculin. Omedet, c'est féminin. Donc là, la tzedaka est féminin. Pourquoi la tzedaka est féminine ici? Au medet, la shon nekeva, on emploie le terme au féminin. Chez Mekabel, il torerut libo ataor, parce que l'éveil de son cœur, bien sûr qu'il a un cœur qui est pur et qui a réussi à être éveillé, mais d'où il a reçu cet éveil? Mi gadol measé. Il a reçu cet éveil d'un monsieur qui était measé, qui l'encourageait. Donc, du coup, il est récepteur, et donc, du coup, on parle d'une tzedaka féminin. Mais afal piken, quand même, on te dit, tzidkato omedet la'ad, que cette tzedaka, le mérite de la tzedaka, de celui qui a fait la tzedaka, même s'il était en mode féminin, en mode récepteur, c'est-à-dire que finalement, il a été encouragé, on dit que ce mérite de cette tzedaka, il restera à jamais. Ça veut dire que, faut pas tomber dans le piège après de dire, moi, j'ai fait la mitzvah grâce à monsieur un tel qui m'a encouragé, donc moi, j'ai zéro mérite, tout le mérite le revient. Je dis non, ça, on n'a pas dit ça. Tzidkato omedet la'ad. Son mérite restera à jamais, ça veut dire que concrètement, le mérite reviendra à celui qui a fait la mitzvah, mais qu'on l'attribuera, on attribuera l'appellation de la mitzvah à qui? À celui qui a encouragé la personne à faire la mitzvah.
Et la Kadosh Baruch Hu, il est en quel mode?
Ah ben, Kadosh Baruch Hu, c'est un méassé à Kadosh Baruch Hu.
Comment?
Il nous envoie des appels le phare, des fois.
Il fait faire. Il nous donne, ou il attend qu'on lui demande?
Non, c'est la même chose. Il va expliquer après dans la suite de la lettre qu'en vérité, c'est la dynamique qu'on a expliqué plusieurs fois, la dynamique du réveil d'en haut et du réveil d'en bas. Il y a plusieurs qui n'étaient pas là quand on a étudié ça, donc je vais répéter rapidement, en quelques minutes, cette notion-là, du réveil d'en haut et du réveil d'en bas. Dans la dynamique qui est entre un juif et Akadosh Baruch Hu, des fois, le réveil commence d'en haut, des fois, le réveil commence d'en bas. Très simple. Ça veut dire quoi? Des fois, le réveil commence d'en bas, c'est-à-dire que je me réveille un matin... Et je sens que dans ma vie, les choses n'avancent pas comme il faut, spirituellement. Donc, je fais un pas vers Dieu. Je me dis, il faudrait que j'avance vers un Kadosh Baruch Hu. Ça peut arriver avant Rosh Hashanah, ça peut arriver avant Kippour, ça peut arriver n'importe quand dans l'année. Ce qu'on appelle le réveil d'en bas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a provoqué ça. C'est pas venu suite à un accident, suite à quelqu'un que j'ai rencontré, shalom, suite à une personne que j'ai rencontrée, suite à la rencontre avec un rabbi. C'est venu comme ça, c'est un réveil d'en bas. D'un autre côté, on a ce qu'on appelle en chassidut le réveil d'en haut. Le réveil d'en haut, c'est quoi? C'est par exemple une personne, il fait un rêve, il voit, il voit son arrière-grand-père qui vient le voir dans son sommeil, qui lui dit, bouge-toi! Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et il vient une fois, deux fois, trois fois, trois nuits de suite. Et le gars, il commence à se secouer un petit peu. Et après, il se réveille. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on appelle ça en chassidout? On appelle ça, c'est un réveil d'en haut, qui va après provoquer un réveil d'en bas. Alors que, de l'autre côté, c'était le réveil d'en bas, qui a provoqué après un éveil d'en haut. C'est-à-dire que la question est qui a commencé en premier? Est-ce que c'est moi qui fais le premier pas? Ou est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait le premier pas? Alors on explique, l'Admor HaZaken il explique dans un autre commentaire sur la paracha, il dit que si on voudrait comparer les deux, lequel est plus fort? Tout à l'heure ils ont posé quelqu'un, je crois que Stock a posé la question, lequel est plus important entre quand ça vient d'en haut ou quand ça vient d'en bas? C'est ça la question qu'on se pose ici. L'Admor HaZaken il dit comme ça, il dit quand c'est un éveil qui vient d'en haut, la personne se sent grave en mouvement, il a envie d'avancer grave. C'est-à-dire, des fois, on voit, par exemple, des gens qui ont perdu un proche de la famille, Dieu préserve, ou bien qui ont eu une très très bonne nouvelle, ou qui ont eu un grand miracle. On voit que, suite à ce réveil d'en haut, ils ont un réveil d'en bas, c'est-à-dire qu'ils ont envie d'avancer. Mais combien de temps ça tient, ça? C'est-à-dire que c'est très puissant. Il sent quelque chose de très puissant. Suite au miracle qu'il a eu, il sent qu'il a envie de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Mais combien de temps ça va tenir, ça? Ça tient très peu de temps. D'accord? Non, 100%. Très rare. Très, très rare.
C'est pour ça qu'on a besoin d'un rave.
Qui sont fait tchouva, ils sont restés grâce à ça.
Ah voilà, justement. Je vais expliquer, c'est quoi?
Oui, tchouva, ça vient d'en bas.
C'est là que je vais expliquer. Donc, il y a un réveil d'en haut. Ça, c'est comme un shocking très puissant. D'accord? Et ce réveil d'en haut, il va provoquer un réveil d'en bas qui fait que la personne avance vers Akadosh Baruch Hu. Mais si après la personne compte seulement sur l'éveil qu'il a eu d'en haut, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Quelqu'un était chez le rabbi, et il a senti un éveil d'en haut, il a senti comme ça que sa neshama a envie d'avancer, il revient chez le rabbi, il a envie d'avancer. Ça va pas tenir longtemps. Ça va tenir une semaine, deux semaines, après c'est fini, il reste plus rien. Pourquoi? Parce que ça vient d'en haut. Ça vient pas d'en bas. S'il fait pas un effort après, pour faire un effort du bas pour que ça vienne de lui, dans ce cas-là, ça fera rien du tout. Mais par contre, ce qu'on a gagné, c'est que le mouvement était très puissant. C'était un choc très puissant. Quand ça vient d'en haut, tu sens vraiment que ton corps est secoué. D'un autre côté, quand c'est un éveil qui vient du bas, ça veut dire que personne ne m'a parlé, c'est moi avec mes efforts de ma tête. Vous savez, des fois, le processus de teshuva, quand on entend les gens qui racontent, c'est un processus des fois qui peut durer des années. des années, il se pose des questions, il se cherche, et il se cherche, ça veut dire quoi qu'il se cherche? C'est-à-dire, c'est un réveil d'en bas. Ça peut durer des années. Et il y a des hauts, il y a des bas, des fois c'est plus fort, des fois c'est moins fort. Ça sera jamais aussi fort que si c'est un appel de phare de Dieu. Mais par contre, ce que tu as gagné, c'est que c'est durable. Ça bouge pas.
Ça reste.
Ça, c'est du dur. Donc, tout à l'heure, tu as posé la question, tu as dit lequel est plus important, lequel est plus fort. Il n'y a pas de réponse.
Si, c'est le direct.
D'accord? Non. Parce que, en fait, le plus fort, c'est l'un associé à l'autre.
Le premier,
oui, mais après, tu as raison, c'est ce qui est le plus important.
Non, parce que si tu vois sur le long terme, tu as raison.
Sur le long terme.
Mais si tu vois à court terme, celui qui a un éveil d'en haut, il sent à ce moment-là un appel vers un éveil vers un cadre extraordinaire.
Quelques années après, je lui dis.
C'est un instant,
alors,
c'est la vie.
Le plus important, en vérité, c'est de marier les deux. Savoir marier les deux. C'est-à-dire, suite à cet éveil d'en haut, de savoir traduire ça.
Donc c'est bien la durée.
Quand on était chez le rabbi, j'ai répété plusieurs fois à ceux qui étaient chez le rabbi, que chez les chassidim, ils m'ont dit que quand on est chez le rabbi, c'est très important, quand on est dans le moment, dans l'éveil, le jour de Guimel Tammuz, etc., c'est très important de prendre une bonne résolution. Même une résolution. Même une petite. Par exemple, de rajouter dans les Tehillim, ou de faire attention à ce qu'on regarde avec ses yeux, ou d'essayer de faire la fila un peu plus longuement si on la faisait une fila courte, ou d'essayer de faire charrer une trahar vite. De prendre une décision concrète. Pourquoi? Parce que dans cette décision concrète, c'est le réveil du bas. Et le réveil du bas, quand il est associé au réveil du haut, c'est là que ça tient. Mais si t'as qu'un réveil du haut, ça veut dire que t'as un tzadik qui t'a bougé, c'est fini, après ça part. D'accord? Si t'as que le réveil du bas, le problème c'est que c'est très très long. Et que des fois, on tient pas. Tu comprends? On connaît des gens qui sont recherchés toute leur vie, mais ils ont jamais trouvé.
Ah oui.
Le réveil du bas, il vient sans le réveil du haut. Est-ce que c'est possible?
Il peut venir, mais le problème c'est que le réveil du bas, c'est un processus qui est très long.
Il y en a eu des autres prochains qui ont jamais
très très long. Oui, c'est vrai, tu as raison.
Ah oui?
Comment tu vas motiver?
Il y en a, ils ont perdu.
Comment tu vas?
Ils n'ont rien fait.
Ça, c'est pas, on peut pas le provoquer, c'est pas nous qui décidons.
Moi, j'ai vu beaucoup de personnes que vraiment, le fait de faire ça, ils voulaient vraiment faire correctement.
Oui, il y a un retour. Ah oui, c'est comme une corde.
Ils voulaient faire correctement. Pourquoi? Justement, parce que comme ils ont fait correctement, après, ils ont gardé ça. À partir du moment où il veut faire du correctement, c'est vrai que c'est de lui-même. C'est le choc qu'a fait qu'il vient de lui-même, mais.
Mais après, il a fait un effort personnel.
Oui.
Voilà. C'est qu'il n'y a pas d'effort personnel, ça ne tient pas.
Dans tous les cas.
C'est une question de midot aussi.
Oui, bon, après, c'est une question, c'est les détails.
Mais c'est personnel.
Ce que je veux dire, c'est que voilà, tout à l'heure, on a posé la question entre Maasé et Méasé, lequel est le plus grand? Il n'y a pas de réponse. Il faut les deux. Parce que comme on dit chez les chassidim, on dit, on voit des fois des gens comme ça, qui peuvent rester bloqués toute leur vie en train de se chercher. S'il n'y a pas un tzadik qui va venir, qui va les secouer un petit peu, toute leur vie, ils vont rester à réfléchir, à peser le pour et le contre. Donc des fois, il faut un shocking. Mais le shocking doit être suivi d'une recherche personnelle, d'un travail, d'un effort personnel. Dans les mots.
Il y a quelqu'un qui est très loin de... Finalement, il faut qu'il y ait un réveil d'en haut, sinon du bas, c'est très dur, qu'il démarre tout seul.
Très difficile, c'est pratiquement impossible.
Ah oui.
Parce que le fait qu'il se recherche, c'est pas suffisant pour le pousser à arrêter tout ce qu'il est en train de faire. Il faut une puissance extraordinaire pour quitter ton chemin de vie. Surtout quand t'es déjà à un âge assez avancé. Quand t'es un jeune homme, c'est facile. Mais quand on est jeune homme, on change de voie comme on change de chaussures. D'accord? Donc quand on est déjà marié, quand on a déjà des enfants, faire teshuva, c'est énorme.
On dit qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il nous tend la main.
Alors non, justement. Quand on dit qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il tend la main, ça, c'est quand il y a le réveil d'en haut.
Oui. Donc il est là.
Mais il y a beaucoup de gens qu'on connaît qui ont eu un processus de teshuva sans qu'ils n'ont jamais eu de réveil d'en haut. C'était un processus personnel de leur neshama qui a pris des années. T'as des gens, 10 ans, ça leur a pris leur teshuva. Et après, à la fin, ils sont arrivés à une conclusion intellectuelle que il faut que je change ma vie. Mais c'est très compliqué, ça prend des années, ça. Il faut avoir une force de caractère énorme pour réussir à changer suite à une décision personnelle. Sans que t'aies eu un mouvement de masse qui t'a poussé à le faire.
Si tu penses que c'est ta décision personnelle, mais en réalité, c'est pas ta décision.
Ça peut pas être ta décision de qui? Ce que t'as vu, ce que t'as entendu, ce que t'as vécu.
Dans ce cas-là, c'est venu suite à un réveil d'en haut.
Tu peux pas le discerner. Tu peux que le discerner à posteriori.
On peut, c'est très compliqué de discerner parce que c'est un mélange de tout. La vie, c'est un mélange de réveil d'en haut, réveil d'en bas. Mais la question est qui a démarré?
C'est ça.
D'où a démarré l'élan de Teshuvah?
Pas savoir.
Très compliqué. Vous savez, il y a par exemple souvent, il y a plein d'histoires. On connaît sans exagérer des milliers d'histoires comme ça. Des gens qui ont mis les téfilim avec les chabats comme ça dans la rue et qui les ont mis parce que le chabat dit lui casser les pieds parce que bon, il dit bon, d'accord. Le chabat dit lui casser les pieds. Et après, quelques jours plus tard, il se réveille. Des fois même quelques années, il se réveille, il a envie d'avancer, il sait même pas pourquoi. Et en vérité, parce que le fait d'avoir mis les téfilim, ça fait quelque chose sur la personne.
Ouais.
D'accord? Mais c'est très compliqué à discerner. Beaucoup comme ça, oui, énormément comme ça. Qui ont commencé parce que une mitzvah, ça fait un impact sur une personne. Là, on parle d'un réveil d'en haut. parce que la personne n'a rien fait. Mais un réveil d'en haut qui est associé à un réveil d'en bas, sinon ça ne marche pas.
Si je t'écoute, moi j'étais chez Rabbi et j'avais entendu... Si
monsieur Kassavi, vous n'avez pas dit les Reims, monsieur Kassavi.
Ah, bah, alors il est là-bas.
Il avait dit, n'attendez pas, c'est ça, j'ai été témoin.
Oui.
N'attendez pas qu'il y ait quelque chose de Hachalom de grave pour faire Tchouba.
Bien sûr.
Donc si une personne attend le réveil d'en haut pour faire Tchouba, c'est ça l'erreur.
Il ne faut pas l'attendre.
Non, mais la réveil, ce n'est pas forcément la...
En général, elle l'attend pas.
Monsieur Kassavi, je vous donne un exemple pour expliquer ce que je veux dire.
Je n'ai pas parlé.
Allez-y.
Laisse-le finir.
Un homme qui fait Tchouba, il faut qu'il soit volontaire, déjà. C'est pas du cinéma faire Tchouba. Moi, je l'ai fait. Voilà.
Il faut lui donner envie.
Il faut déjà le vouloir.
Mais s'il ne sait pas ce que c'est.
Comment?
S'il ne sait pas ce que c'est.
Il sait pas quoi?
Il sait pas ce que c'est.
Sauter?
Non, il ne sait pas ce que
c'est. Marof.
Il sait pas le
mec. Mais il va à la synagogue quand il veut faire Tchouba, le gars. Il va trop loin d'abord.
Monsieur Kassavi, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire Tchouba?
Après, on lui montre à la synagogue.
Ah, mais comment vous avez eu envie de...
Comment vous avez envie de faire Tchouba?
Moi, j'ai eu envie...
Comment? Qu'est-ce qui a déclenché? Le processus de Tchouba?
Mes enfants.
Ah, vos enfants.
Mes enfants, parce que j'avais peur pour mes enfants. Tout simplement. Je venais d'habiter ici. Il n'y avait pas de juif.
Alors c'est un réveil d'en haut ou un réveil d'en bas ça?
C'est volontaire, c'est moi-même. J'ai dit moi mes enfants en bas, il y a que des bruits. Et c'est comme ça que tous les jours j'ai tout cassé, tout détruit, et j'ai jeté l'argent, et j'ai fait Tchouba.
Ah, c'est l'argent que j'ai récupéré.
Vous l'avez jeté.
Mais où vous l'avez jeté?
Il n'est pas perdu pour tout le monde, hein.
Bien sûr.
Il y a eu un déclencheur qui a pris la
paix. Mais il y a un déclencheur.
Il y a un déclencheur. Toujours. Ou l'argent. Il n'y a pas de discussion dans la Torah.
On peut avoir les deux.
Tu choisis l'argent ou tu choisis la Torah.
Rassurons-nous, on peut avoir les deux.
Monsieur Kassavi, il y a des fois des gens.
C'est pas réponse,
d'accord.
Non, ça, c'est Dieu
bah oui.
On
peut.
Bon, monsieur Kassabi.
C'est pas bien ta réponse. Quand quelqu'un aime l'argent, pour lui le Shabbat, je le ferai quand je serai vieux.
Ah, mais tu parles pas de celui qui. Tu parles pas de ça, moi.
C'est vrai,
la raison.
Non, c'est pas Shabbat, je gagne l'argent, c'est mon jour.
Non, mais c'est exactement mon jour.
C'est bien.
Monsieur Kassabi. Il y a des gens. Allez, rabotez, on continue. Il y a des gens qui ont besoin de ça. D'accord? Il y a des gens qui ont besoin d'un réveil, d'aller voir un tzaddik. D'accord? Vous savez, il y a des fois des gens qui allaient voir le rabbi par effet de mode. Parce que tout le monde allait à New York, Ils n'allaient pas parce qu'ils voulaient faire teshuva. Ils faisaient même pas Shabbat à New York.
Bien sûr.
D'accord.
Ils allaient par effet de mode, et quand ils allaient, ils voyaient le rabbi, il y avait un réveil d'en haut, parce que t'as rencontré un tzaddik. Pas que le rabbi, tous les tzaddikim. Après, c'est toi qui décides ce que tu en fais.
Moi, juste que j'ai entendu du rabbi, comme quoi n'attendez pas d'avoir...
Ah, c'est clair, ça.
C'est tout.
Bah, c'est ce qu'il est en train de dire. Là.
Enfin, non, ça tient pas, ça. Les gens qui font teshuva suite à des malheurs, ça tient pas.
Pas d'avoir quoi?
Voilà. Pourquoi bizarre?
Ça tient pas.
Sont consolés,
non,
dès qu'ils sont consolés un petit peu, dès qu'ils se calment un peu, ça repart.
Bah, toujours.
Pas toujours.
Hein?
Il y a de tout.
Moi, je connais plein de
cas. Okay. Ouais, moi, je vous dis.
Oui, il y a plein qu'on fait par rapport à ça.
Ouais.
C'est des gens qui ont eu la chorma de savoir faire un effort personnel suite au réveil d'en haut.
Ils avaient envie avant, mais ils n'ont plus.
Ça veut dire exactement comme Marcel y dit, que ce qui est fort possible, c'est qu'ils avaient envie avant, mais qu'ils n'arrivaient pas à faire le pas,
voilà.
Et que quand il y a eu quelque chose qui s'est passé, la décision était déjà mûre dans leur tête, ils ont dit bon, je me lance. Mais quand c'est quelqu'un qui a jamais réfléchi et qu'il a un réveil d'en haut qui fait que maintenant il fait les mitzvot, il retombe à 100%.
Il y a aussi peut-être égoïsme, parce que quelqu'un qui a subi un choc, il a perdu son père, machin, son frère, je sais pas quoi, il a subi un choc, il dit, ça marche, il y a vraiment un Dieu, alors il faut que je me réveille.
Bien sûr.
C'est égoïsme. Moi, j'ai un cas comme ça, j'ai vu de mes yeux, parce que je peux mettre, je raconte, quand j'étais dans l'armée, on avait un mec qui mettait le seul qui mettait de finir avec moi, d'accord. On était dans un zahlam, un char. D'accord. Et il a dit, zut, c'était au Liban, première guerre de Liban, zut, les tfilines sont tombés.
Ils sont
tombés les tfilines.
Ah, d'accord.
Parce qu'il était au dernier, la porte était mal ouverte, comme il a bien bougé, les tfilines sont tombés. Et les chauffeurs ashkenaz, il a dit, attends, vous dites, les tfilines sont tombés, ça va pas, je m'en fous. Il dit, alors, retourne. Et tout le monde là-bas, ils ont été anti, mais anti. Alors là, pour eux, c'est, s'il y avait un, peut-être, qui ne disait rien, mais anti. Alors je dis, attends, cette filine, c'est important pour lui, laisse-le. Chacun fait tout ce qu'il veut. Laisse-le. On va retourner, on retourne. On a arrêté, il y avait un missile qui est tombé.
À l'endroit où vous étiez avant.
Voilà. Pile poil, à la seconde. Alors tout le monde, waouh, y'a Elohim, y'a un Dieu, y'a...
Et ça a tenu ou pas? Ils ont fait tchouba?
Il y a certains, oui, qui sont...
Certains, oui, certains, voilà. Voilà.
Mais s'ils font pas de tchouba, ils sont pour ça.
C'est pas grave.
Moi, ils ont été un peu...
Oui, choqué. Il faut, tu es obligé d'avoir un effort personnel d'en bas, sinon ça tient pas.
Ah, grave, c'était vraiment...
Ok, allez, rabotons, continue. Donc, pirouche, ça veut dire... Shekol, ah, c'est une très belle histoire. Pirouche, ça veut dire...
Explication.
Shekol, allez, rabotez, on continue dans les mots.
Si tu as vu les choses que j'ai vues, non.
Alors, on est à la ligne qui commence par... Af al piken, d'accord. Avec le, exactement, le point. Septième ligne. Pirouche, ça veut dire... Shekol atzdaka vea chesed. Que toute la tzedaka est le chesed. Chez aussi, chez Israël aussi, bolamazé, que les juifs vont faire dans ce monde-ci. Minit vat libam atahor. Et qui le font parce que leur cœur a envie de donner. En hena chayot vekayamot bolamazé gashmi azvan atria. L'impact du bien qu'on a fait est un impact qui restera ad vitam aeternam, même si on a été encouragé par quelqu'un d'autre pour le faire. Ça, c'est évident. Mais, ça reste une tzedaka, ça reste une mitzvah qui est en mode femelle, qui est pas en mode mâle. Okmo chez Az, Uzman, Gilou, Yelokut, Veor, Ensov, Aruchub, Mprinatsov, Koyen, Bolamazé, Okmo chez Uzbar, Baharichut, Mirtav, Deshtakad. Comme on avait expliqué, alors lui il dit ici dans la lettre de l'année dernière, ce qu'il appelle ici la lettre de l'année dernière, c'est la lettre que nous on étudie, la lettre 15. D'accord? La lettre 17, excusez-moi. Dans laquelle l'Admor HaZaken parlait de l'importance d'une mitzvah et comment une mitzvah a un impact qui est éternel et que c'est un impact qui est dans le Gan Eden, dans l'Olam Haba et jusqu'à la fin des temps et comment l'impact d'une mitzvah ne s'arrête jamais. C'est ce que tu dis ici. Concrètement, bien sûr que le mérite de la mitzvah reviendra à celui qui t'a encouragé. Mais qui a fait la mitzvah? Quel corps a fait la mitzvah? C'est toi, c'est moi qui a fait le... Alors, ça, ce mérite-là me reviendra. Et ça bougera pas. Vetzarich liot keli umachon liklavesh bo or en savaru kemo haguf lineshama al derech machal kemo shekatuv. Alors, ça, c'est intéressant ce qu'il dit ici. Alors, ça, c'est une autre notion encore qui va toucher ici. Et après, on va ouvrir une petite parenthèse et après, on passera à la tzedaka en mode mâle. Là, on s'est arrêté principalement à la tzedaka en mode femelle, on est d'accord? C'est-à-dire la tzedaka quand j'ai été encouragé par quelqu'un. Là, il ouvre une petite parenthèse. Il dit comme ça. Il dit, il s'est écrit que dans Jérémie, le prophète Jérémie, il dit, Allo, kod varai keesh. Il dit au nom d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il dit, mes paroles sont comparées à du feu. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il dit. Et là-bas, la Gemara pose la question, il dit, mais pourquoi les paroles de Dieu sont comparées à du feu? Quel rapport avec du feu? Quel rapport avec le feu? Et la Gemara, elle dit comme ça. Elle dit, de la même manière que le feu ne peut s'attraper seulement si tu as une mèche. Le feu, il a beau être très très fort, mais pour qu'il s'attrape, tu dois avoir un combustible. Tu dois avoir un corps qui est en train de brûler. S'il n'y a pas de combustible, ça ne tient pas. Et bien, de là, elle dit la Gemara, de la même manière, la Neshama, c'est comme le feu. C'est un feu, c'est énorme. Mais ce feu de la Neshama, il faut qu'il s'attrape à quelque chose. Par quoi il s'attrape? C'est quoi la mèche par laquelle il s'attrape? C'est les mitzvot. Quand on fait une mitzvah, c'est comme la mèche. C'est ce qui permet à la flamme de la Neshama de rester sur place. Sinon, la flamme de la Neshama, elle ne tient pas. Comme la mèche. Si t'as pas de, si tu attrapes pas le feu avec la mèche, qu'est-ce qui se passe? Où il va le feu? Il s'en va. Il s'évapore. Enfin, il s'évapore. Non, mais il va vers le haut. D'accord? Il s'en va. Il va vers le haut. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin d'une mèche. Il y a besoin d'un combustible. C'est quoi le combustible? Pourquoi? Non, je parle pas de mourir. Je parle du feu de la Neshama.
Oui, mais celui qui fait pas
le combustible, c'est pas la mèche. Si le commence à brûler, si la Neshama elle a plus de combustible.
Non, il répond avec ça une question. C'est très simple. La question qu'on se pose tous. Un juif quand il naît, on nous a tous dit que quand un bébé il est dans le ventre de sa mère, le bébé il a pris toute la Torah. On est d'accord? Et juste avant de sortir, bon, le malach il a tapé et il a oublié de la Torah. D'accord, pas de problème. Mais c'est-à-dire que le bébé quand il sort du ventre de sa mère, il est religieux de série. On est d'accord? Il a une Neshama qui est bonne. Bon, on est d'accord? Il a Il a le feu de... Voilà, NF, certifié. Il a le feu de la Neshama qui brûle.
Pas MF, hein.
Qu'est-ce qu'il fait? Comment ça se fait qu'avec le temps, ce feu de la Neshama, il s'en va?
Parce qu'il n'y a pas les mises à jour.
D'accord? Le feu de la Neshama, il y a une flamme. Regardez un enfant, le kiff qu'il a quand tu fais une mitzvah. Comment il est dedans? Comment il plonge? Il plonge, il est heureux, il est aux anges. On dirait que tu lui as donné je sais pas quoi. Pourquoi on l'a pas quand on est grand? Pourquoi on n'a pas ce feu? Pourtant, c'est moi qui étais petit avant. C'est très simple, il te dit, parce que ce feu-là, il faut l'entretenir, il faut des mèches. Si t'as pas de mèches, et ben ce feu, il s'en va. Après, tu ramènes les mèches, après, petit à petit, il y a toujours une petite flamme qui reste. voyez, comme dans les anciennes bouilloires, comme dans les anciennes chaudières, là. Il y a toujours la petite flamme, là. Vous savez, le chauffe-eau, la petite flamme. Il y a toujours la petite flamme. Elle restera toujours.
La veilleuse.
La veilleuse. Toujours la petite veilleuse. Là, il y aura toujours. Dans l'année Shabbat, il y aura toujours. Et c'est pour ça qu'après, plus tu feras de mitzvot, et plus tu mets des mèches. Plus tu mets des mèches, et plus le feu, il est grand. Et plus le feu, il est grand, et plus il y a de mèches, et plus tu sens que t'es dans la chaleur de la mitzvah. D'accord? Bah oui, c'est comme ça que ça marche. Pourquoi il dit ça? Il explique ici, pour dire l'importance qu'il y a de faire une mitzvah, d'encourager une personne à faire une mitzvah. D'encourager en vérité nos amis à faire un maximum de mitzvot. Tu dis, mais pourquoi? Pourquoi tu veux que j'encourage à faire une mitzvah? Pourquoi tu veux que j'encourage à faire Shabbat? Pourquoi tu veux que j'encourage à mettre les tefillines? Il n'est pas intéressé. Est-ce que c'est pas mieux d'abord que je lui explique et que ça vienne de lui? Morazaken, il te répond, il te dit, c'est une erreur de penser comme ça. Pourquoi c'est une erreur? Il te dit, parce que chaque fois que tu l'aides à faire une mitzvah, tu es en train de lui rajouter une mèche. C'est-à-dire que maintenant, la flamme, elle devient plus grande. Tu lui rajoutes le Shabbat, la flamme, elle devient encore plus grande. Tu lui rajoutes les tefillines, la mezouza, la flamme, elle devient plus grande. Et après, de lui-même, il s'en va. De lui-même, après, il va vivre son judaïsme. Donc toi tu te dis, je préfère avant de l'encourager à faire des mitzvot, je préfère qu'il vive son judaïsme et qu'il comprenne ce qu'il fait. J'ai pas envie de lui dire de faire bêtement, ça se fait pas, c'est malhonnête. Tu dis c'est intellectuellement malhonnête. Une fois il y en a, il m'a sorti. Il m'a dit, monsieur le rabbin, ce que vous faites c'est intellectuellement malhonnête. J'étais en train de lire la Megillah à des retraités. Un truc de retraite là-bas, la rue du Château des Rentiers. Et il y a un membre de la famille d'un retraité qui est venu. Je t'en train de lire la Megillah en plein milieu. La Megillah, c'est bon, je lisais rapidement parce que les vieux ils tiennent pas plus que 10 minutes. Je traçais. Donc il y avait des vieux qui étaient assis comme ça, qui me regardaient comme ça. Et moi, j'étais là avec ma Megillah en train de tracer. Et il y a un gars qui rentre, un proche, il me dit, mais monsieur, c'est intellectuellement malhonnête ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites?
Un TGV qui trace.
Si vous faites, vous suivez même pas à quoi ça sert ce que vous faites. Il a raison, si tu es avec la logique, il a raison à quoi ça sert. C'est n'importe quoi. Logiquement, ça veut rien dire. Je suis rentré, je suis parti, est-ce que ça leur a fait quelque chose? La réponse est oui. C'est que quand j'ai fait la Megillah, qu'est-ce que je leur ai fait? Je leur ai rajouté une mèche. Et cette mèche, elle s'est allumée. Et ils vont faire après, ils vont mettre les tefillines. Les femmes ont allumé les bougies de Shabbat. On a rajouté encore une mèche, ça fait une grande flamme. Et après, sans qu'ils se rendent compte, ils sont dans le coup. Voilà ce qu'on a gagné. Voilà pourquoi il te dit, c'est important d'encourager, d'être un mais assez, d'encourager les gens à faire une mitzvah. Et que le mérite nous reviendra parce que c'est toi qui lui as donné la mèche. Mais concrètement, qui sait, la mèche appartient à qui? Elle appartient à celui qui a fait la mitzvah. Vous voyez comment chacun retrouve sa part. C'est quoi?
Cette maison de retraite à Châtelard.
Oui, je sais pas, je crois qu'il n'y a plus de juifs là-bas.
Non, c'est fini. C'est juif, la place. 100% juif, mais après.
Je voulais dire, vous les avez bernés, en fait.
Quoi?
Vous les avez bernés. C'est ça qui vous
dit. Non, mais il me dit, ça sert à rien, quoi. Il me dit, c'est malhonnête ce que vous faites. Qu'est-ce que vous leur faites, là? Et à quoi ça sert? Mais il m'a hurlé dessus, hein, pendant la Megillah. Je pouvais même pas lui répondre, en plus, je te prends la Megillah.
Ah ouais.
Après, il a posé le livre.
Et je me suis dit, attends, je finis la Megillah, celui-là, je vais l'expliquer. Et hop, entre temps, il est parti. Donc lui, il a lancé sa phrase, mais c'est pas grave, il a écouté 5 minutes de Megillah, c'est pas mal déjà. C'était un juif, lui aussi, attention, bien sûr. Ashkenaz, hein, j'ai rien que les Ashkenaz. Les Ashkenaz, quand ils ont un truc, ils te le sortent en face, hein.
Ouais, like. Il va te sortir, et les Allemands alors, hein. Tu vas te sortir les trucs comme
mais il a raison, c'est vrai. Surtout, vous savez, c'est très difficile. Surtout pour les Chabad, vous savez, quand tu vas encourager quelqu'un à mettre des tefillines. Et qu'à chaque fois tu lui sors un baratin, une fois tu lui dis, pas un baratin, mais tu cherches une excuse. Une fois tu lui dis c'est mon anniversaire, une fois tu lui dis, tu lui trouves un truc pour qu'il mette les tefillines. Oui, il faut avoir beaucoup d'imagination pour qu'il mette les tefillines, le bonhomme. Il faut être très créatif. D'accord? Mais à un moment tu dis, mais attends, à quoi je joue? Le gars, il veut pas les mettre, il les a mis pour moi. Je vais sortir, il va pas les remettre, alors qu'est-ce que j'ai gagné? À quoi ça sert? Voilà, on a la réponse. D'accord? C'est que moi, j'ai été un mais assez. Et comme j'ai été un mais assez, je l'ai encouragé à le faire, j'ai créé une flamme chez lui. J'ai augmenté la flamme qu'il y avait. Et chaque fois que je vais le faire, je vais augmenter la flamme, jusqu'à qu'après, sans qu'il se rende compte, il y a un incendie chez lui. Et là, il bouge.
Et est-ce que c'est pareil pour s'aider les malades?
Des fois, on pense que dès qu'on est parti, il a pris un extincteur.
Est-ce que c'est pareil pour s'aider les malades?
Est-ce que?
Faut dire la même chose pour les malades?
Pour les?
En haut, que ça vient d'en haut.
Que quoi?
Bah, qu'en vrai, il va lui mettre une mèche.
Oui, mais le problème, c'est qu'une mèche qui vient d'en haut, c'est une mèche qui tient pas.
T'as laissé le libre à vous
par le but. Ce que j'ai expliqué, c'est que quand c'est pas venu de la personne, même moi, quand j'ai encouragé quelqu'un à faire une mitzvah, je lui ai allumé une mèche. Mais si le bonhomme, après, il a pas fait un effort de réflexion, de dire, attends, ça me rappelle, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, s'il a pas fait un effort personnel, c'est fini, ça s'évapore, il reste plus rien. Je reviens l'année d'après.
C'est pareil, ça. Pourquoi ça tiendrait quand je lui raconte du baratin pour qu'il mette sauf.
Je lui ai allumé, mais après cette mèche, elle s'en va. Elle se consume. Ça va durer combien de temps, cette mèche? Elle va durer 3 jours, 4 jours. Après, donc, voilà, après, c'est,
même si je mets
c'est la même chose. Bah oui, tout s'évapore. Si tout se consume, si t'as pas par derrière un travail pour rajouter des mèches et pour rajouter et pour alimenter ce feu, ça sent là. Je pense que l'exemple, ce que la demande Razak Kennedy dit ici, c'est que, en vérité, le feu, c'est un exemple qui est excellent. Parce que, dans le feu, on a le concept qu'il faut constamment l'alimenter. Il y a le concept qu'il faut constamment l'alimenter. Et comment tu l'alimentes? T'as un grand feu, tu l'alimentes pas, le feu, il réduit. Il y a pas où aller. Ouais. Automatiquement, avec le temps. Il n'y a pas besoin d'action pour éteindre le feu. Automatiquement, avec le temps, il se réduit.
Juste une question. Dans le cas, la personne, dans toute sa vie, elle a été justement poussée. Mais en fin de compte, elle l'a fait parce qu'elle a été poussée. Et Khaz Vakhili, elle décède. Donc, ce qu'elle a fait...
Il l'a fait. Ce qu'il a fait, il l'a fait.
L'action, c'est l'action.
L'action, c'est l'action.
Elle a obéi.
Mais...
T'es angoissant, tu demandes.
Je sais qu'il vous a pas de questions.
Non,
d'accord. C'est l'histoire.
Il a venu.
Donc.
Non, ça vient comme ça.
Bon, en tout cas, est-ce que vous avez compris en tout cas l'image du feu? Est-ce que vous avez compris, Rabotaï, l'image du feu? L'image du feu nous permet de bien comprendre l'équation, la relation qu'il y a entre le maasé et le méasé, entre l'action et entre celui qui aide à faire l'action. Quand moi j'aide une personne à faire l'action, je lui donne la mèche. D'accord? Lui après, s'il rajoute pas d'autres mèches, ça tiendra pas. C'est tout. Ok? Allez, Rabotaï, on a encore un peu de temps? On continue.
Il va le compter pour lui, il l'a fait quand même.
Alors, il dit maintenant. Allez, on continue à Rabotaï. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici?
Oui, c'est vrai, on fait quand même.
Est-ce qu'il y a des questions?
Non, on ne veut plus poser de questions.
Il n'y a pas de questions.
On peut.
Non,
on peut plus.
Ça sert à ça,
Limoud.
Ouais, non, c'est
cadeau,
ça fait terminer une épreuve.
De quoi? De quoi?
De gagner 140 millions en loto. On peut se faire tuer à cause de ça. Ça fait une épreuve aussi. Je vais gagner.
Non, c'est une épreuve.
Il y en a plein qui veulent essayer, là.
Oui,
c'est une épreuve.
Ça peut être une épreuve. Vous préférez l'épreuve de la richesse ou l'épreuve de la pauvreté?
La richesse.
Moi, je préfère. Ne m'éprouve pas. Laisse-moi tranquille.
Ne me donne pas. Behou, behoum, behou, blahoum.
Comme il a dit un paysan, si tu veux jusqu'à 120 ans, je veux vivre bien.
Oh, il va voyer avec, oh, il va voyer sans. Quand tu les as, tu sais pas quoi faire, comme il les a pas.
Si vous jouez, c'est pour gagner, non?
Mais oui.
Évidemment. Pourquoi tu joues, c'est pas pour gagner?
Demain, il y a 140 millions demain.
149.
On va indiquer tout ensemble.
149.
Ok, Rabotaï, continue.
149.
Non, c'est 149.
Maesh. Alors. Allez, Rabotaï, on y va. 5 clés avant la fin de la page. Il y avait des questions ou pas?
Non.
5 clés avant la fin de la page. Maesh enameira bo lamazé. La même manière que le feu ne peut éclairer dans ce monde-ci. Et l'akshene rezet ou mit la bechet biftila. De la même manière que le feu ne peut éclairer seulement s'il est attrapé par une
mèche.
D'accord? Que moshkatoub ma komacher, comme c'est expliqué ailleurs. Ve agou ve akli le oroid barer. Quel est le réceptacle? Quelle est la mèche? Quel est le corps qui va attraper la lumière, le feu de la neshama? Hi midat a chesed un divat alev liten ou l'ashpia chayut. Il dit que parmi les mitzvot, bien sûr que toutes les mitzvot c'est des mèches, mais il y a des mitzvot c'est des mèches extraordinaires, d'accord? C'est des mèches qui explosent tout. C'est quoi? Toutes les mitzvot qui sont liées au chesed. Toutes les mitzvot qui sont liées au chesed, c'est des mitzvot qui amènent un apport à la personne, un feu extraordinaire.
Par exemple,
ça veut dire quoi? Très bien. Ça veut dire que, écoutez bien, ça veut dire que quand vous avez quelqu'un qui est loin de la Torah, si vous pouvez l'encourager à faire une mitzvah qui est liée au chesed, par exemple, l'encourager à venir visiter des malades dans les hôpitaux, l'encourager à donner de la tzedaka, d'accord? L'encourager à aider. Il explique ici que l'apport en énergie d'une mitzvah de chesed est beaucoup plus fort que notre mitzvah. C'est comme ça. D'accord? C'est un impact sur la neshama que ça amène comme une sorte d'enthousiasme à la neshama. La personne se sent enthousiaste. Il y a un feu qui s'allume. Et l'enthousiasme est beaucoup plus fort chez la personne quand c'est une mitzvah qui est liée au chesed.
C'est un peu logique.
D'accord? Bien sûr, c'est logique.
Parce que
on voit les gens quand ils font du chesed, ils se sentent bien.
Parce que déjà, pour faire pousser la personne à l'enthousiasme, t'es obligé de travailler toi-même.
Oui.
Que la tzedaka, tu fais pas tellement un travail toi-même.
C'est vrai.
Tu donnes.
Oui. Donc, c'est pour ça qu'il dit ici, c'est pour ça que l'Admor Hazaken, il parle beaucoup de tzedaka. C'est pas parce qu'il veut de l'argent. Parce qu'il veut encourager les gens. Bon, d'accord?
Les deux. L'Admor
Hazaken était un pro pour récolter des fonds. Il a récolté des milliards. pour les yeshivot en Israël, c'était le plus grand pourvoyeur des yeshivot en Israël. Mais il prenait presque rien pour sa yeshiva. Il y avait des convois qui partaient carrément, des convois qui partaient quand il ramassait assez d'argent, il y avait des convois qui partaient deux fois par an. Il partait de Lyuzna, sa ville. Il y avait des convois armés qui partaient, parce qu'on savait que dès qu'il y avait un convoi qui partait de Lyuzna, c'était un convoi qui était rempli. Des sommes énormes, des sommes colossales, il envoyait. Parce qu'il arrivait à encourager les chassidim à donner. Le peuple, tout le monde donnait. Non, les chassidim n'étaient pas riches. Il n'y a pas de moyens. Mais tout le monde donnait, parce que tout le monde était persuadé de l'importance. Il arrivait à... La majorité des lettres de Yigaret HaTshuva, c'était sur la Tzedaka. Autour de la Tzedaka.
On a fait un cours là-dessus. Ils ont quand même racheté toute la ville de New York.
La ville de New York.
Non. Rabban.
Alors,
ils n'ont jamais acheté la ville de New York, ils ont acheté l'État de New York avec la ville.
Mais les États-Unis, complètement. Le monde.
Amen.
L'espace. Alors, on continue. L'Iten ou l'Ashpia Chayut, les mains de l'Etlé, comment est-ce que tu veux dire qu'on est, comment est-ce que tu veux dire qu'on est, comment est-ce que tu veux dire qu'on est, comment est-ce que d'accord. Voilà, je voulais arriver à la suite. On va prendre la page suivante. Vezeu Shamru Razal. Avec ça, on va comprendre ce que les Chachamim ont dit. Les Chachamim ont dit, d'accord, que, alors, excusez-moi. Vezeu Shamru, Vezeu. La ligne commence par Vezeu. Voilà. Zeu Shamru Rabotenu Zichronam Livracha. Avec ça, on va comprendre ce que les Chachamim ont dit. En Hatzdaka Mishtalemet. Les Chachamim ont dit dans la Gemara Souka. Ils ont dit que En Hatzdaka Mishtalemet. Le mérite de la Tzedaka n'est rentable. Et là, les filles Chesed Sheba. La Tzedaka est rentable seulement par rapport à la masse de Chesed qu'il y avait en elle. C'est extraordinaire ce que la Gemara a dit. La Gemara a dit, les gens, ils pensent qu'on quantifie le mérite de la tzedaka par rapport, on quantifie le mérite de la tzedaka par rapport au montant. On quantifie, quantifier. Mmh. Ça veut dire mettre la quantité.
Donner une valeur.
D'accord. Donner une valeur. La Gemara dit comme ça. Elle dit les gens ils pensent qu'on quantifie la tzedaka par rapport à la somme qu'on a donnée. Même si c'est pas par rapport à la somme qu'on a donnée, par rapport à la somme proportionnelle. Par exemple, une personne, au lieu de donner le maaser 10%, il a donné 20%. Tu veux dire 20%, bon bah s'il gagnait 10 millions, d'accord, c'est combien? C'est 2 millions. S'il gagnait 2000 euros, c'est combien? D'accord, 20%, c'est 400 euros. Eh ben, la Gemara te dit que la Tzedaka ne se calcule pas en pourcentage. Le mérite de la Tzedaka ne se calcule pas en pourcentage.
Quand ça fait mal.
Même s'il a donné, même si c'est la même chose, d'accord? Un, il a donné 20%, l'autre, il a donné 20%. Te dis non. La Tzedaka se calcule par rapport à Midat Achesed. Ça veut dire que le mérite de la Tzedaka va se calculer par rapport au fait jusqu'à combien j'ai senti quand j'ai donné que j'ai fait appel à ma mida de chesed pour donner. C'est-à-dire, des fois, t'as des gens qui vont donner très peu parce que c'est des radins. Mais quand il a réussi à donner, il t'a donné le gars 10%, mais il a senti qu'il a donné un rolam. D'un autre côté, t'as un autre qui va te donner 20%, mais pour lui, c'est rien. Il a rien fait. D'accord? La Gemara te dit que le mérite de la tzedaka va s'estimer par rapport à quoi? Par rapport à l'effet midat à chesed. Pas par rapport à l'argent que j'ai donné. Par rapport à la quantité de chesed que j'ai dû déployer pour faire la mitzvah. Pourquoi j'explique ça ici? Pour expliquer que l'importance pourquoi on fait la mitzvah de tzedaka, la tzedaka c'est comme une mèche. C'est quoi le but de cette mèche? Le but de cette mèche, c'est de développer chez la personne le chesed, de développer chez la personne l'envie de donner, de développer chez la personne la chaleur. Et plus une personne a eu de la chaleur quand il a fait la mitzvah, et plus la mitzvah aura un impact durable sur sa vie. C'est exactement
ça.
Quoi?
Quand tu fais deux chèques, t'as chaud, tu transpires un peu.
Ça dépend. Ça dépend des gens.
Toi, quand tu fais deux chèques, quand
un chèque, c'est chaud.
Un chèque, c'est chaud. Ça dépend. T'as des gens que c'est naturel. Ils vont donner une grosse somme, mais c'est naturel. Ils ont pas senti qu'ils ont fait. Maintenant, c'est possible que le gars, il a donné le maximum de ce qu'il pouvait. Plus que ça, il peut pas donner. Mais il a pas senti quand il a donné. Rabotaï, c'est un peu raffiné ce qu'on dit ici. Il faut se concentrer. Ça veut dire que des fois, on peut donner le maximum de ce qu'on peut donner. On a donné vraiment, on est allé à notre maximum. Mais on n'a pas senti qu'on a fait du chesed. Ça veut dire qu'on n'a pas fait un effort à l'intérieur pour se dire « Attends, je fais du chesed, je vais aider quelqu'un, je fais une mitzvah. » On n'a pas essayé de vivre la situation. Et qu'est-ce que te dit la Gemara? La Gemara te dit que le srout de la tzedaka est principalement par rapport au fait comment tu as réussi à vivre la mitzvah, à vivre le chesed, à vivre la bonté.
Tu peux sentir un peu de gava si tu penses que tu fais la
chesed. Bien sûr, oui. Alvaï. Il n'y a pas de problème. Une fois, bien sûr, on l'a fait une fois. Vous vous rappelez pas, j'ai raconté une fois l'histoire. J'ai dit qu'une fois, il y a un aubergiste qui est venu. Une fois, il était de passage chez un aubergiste. Et l'aubergiste, il est venu voir le rabbi avec sa femme. Il a dit, rabbi, j'ai un problème. Quand les gens n'ont pas les moyens, je leur donne, je leur paye la nuit d'hôtel, je leur paye le repas et tout. Mais j'ai un problème. C'est que quand ils me disent, je vous l'ai raconté déjà, ouais, quand ils me disent merci après, je kiffe. J'adore. Alors bon, c'est il attend le merci, la vérité. Ouais. Et il sait qu'il aura le merci. Il dit, non, il n'y a pas de problème, c'est pour moi. Ah, merci beaucoup. Il adore le merci. Alors il dit, Rabbi, je me dis, est-ce que je le fais pour la mitzvah ou est-ce que je le fais
pour le merci
ou est-ce que je le fais pour le merci? D'accord? L'Admor Hazaken s'est mis à réfléchir. D'accord? Il lui a dit, et moi, ma nuit, je la paye, non, je rigole. Alors il a dit. On va pas rigoler comme ça. Alors, l'Admor Hazaken, il a réfléchi. D'accord? Et il lui a dit, mais le pauvre, il a mangé. Le pauvre, il a dormi. C'est ce qui compte.
Bah oui.
Fin de discussion.
Ouais,
ça paraît bon, pas. Si. Ça veut dire, on n'en a rien à faire de ce que tu penses. Ça, c'est ton problème. À la limite, le mérite, il sera moins grand, peut-être. Ah, voilà. Tu as raison.
Et encore, pourquoi?
Mais concrètement, le pauvre, il mange. Donc, c'est un scrout.
Pourquoi? Ça te fait plaisir aussi de... Ça lui faisait plaisir, en fait.
Non. D'accord.
Avant que vous la question.
Ah, la question.
Attention,
tu peux t'en faire la mise à non.
Attention de ne pas te faire retoquer par M. Poët parce qu'il est.
Tu as dit que consommer, quand tu dis une personne, quand elle le fait, elle a donné, comme si c'était quelqu'un très radin, il a donné, mais après il se sentit bien.
Et non, pas il se sentit bien. Il s'est senti.
Léger.
Oui, bon, qu'il a fait du chesed. Qu'il a fait du chesed.
Donc, il a mis, on voit qu'il a mis que l'autre c'était.
C'est Meknesi, il a
senti. Délesté.
Ça veut dire que, par le temps, quelqu'un, sa maxime, c'est là, c'est que, au début, il était comme ça. Et à force, il a donné.
Ah, ça, c'est pas sûr.
Il a continué à donner.
Et quoi?
C'est-à-dire, ce radin-là, que tu dis qu'il s'est senti bien, la première, la deuxième fois, pendant 10 fois, il s'est senti bien comme ça. Mais à force d'avoir donné comme ça, il continue à donner.
Alors, si tu continues à donner,
ça y est, c'est plus comme ça.
C'est une mitzvah! C'est une mitzvah!
Mais c'est normal, par le temps.
Mais le vrai sroute de la tzedaka.
Ce que je veux te dire, c'est que c'est normal, par le temps, quand tu appliques tout le temps la même chose.
Ben, il faut augmenter.
Il y a un moment.
Tu commences ce que tu donnes.
Ah, tu commences ce que tu donnes.
Bah oui.
Si tu restes à 20 cc, ça fera toujours la même chose.
Non, ça fait plus rien après.
Non, tu augmentes, ça fait plus. Jusqu'à que tu fasses une.
Mais après, il s'habitue.
Ça a l'air de bien, t'es comme
ça. Bon, on va se joindre à toi.
Il est à 50 cc, Mickey.
Faut se droguer au fond. T'as devant Simone. Il va se joindre à lui.
Alors, on continue. Donc, il dit, on finit avec ça. Vezeu shamru razal en atzdaka mishtalemet ela lefi chesed sheba shenemar zar ulacha melitzdaka kitzru lefi chesed shehakatzir ugilui azriya atmuna ba'aretz vekach hu atzdaka vachesed sheyisrael osim mizman hagalut. Je termine avec ça pour aujourd'hui. Il dit ici qu'en vérité, quand on a la tzedaka, il faut imaginer que c'est comme si on est en train de semer. On sème, d'accord, on sème, et après on laboure. Et après, ça prend du temps. Ça veut dire que des fois, ce qui veut t'expliquer, c'est quoi? C'est que des fois, ça prend du temps. Des fois, ça prend du temps pour sentir que tu as fait la mitzvah, que tu as donné, que tu as fait du chesed. C'est pas grave. Des fois, ça prend du temps. Mais quand on fait une mitzvah en général, il faut se dire que c'est comme si qu'on sème. Et ce qui veut t'expliquer ici, c'est que pas dans toutes les mitzvot, l'impact est immédiat. Mais il y a des mitzvot qui ont une possibilité d'avoir un impact immédiat sur la personne. J'avais fait une fois un cours dans lequel j'avais expliqué que le rabbi, il a lancé 10 campagnes de Mifteim. D'accord? D'ailleurs, vous les voyez sur les voies de Tzedaka du Beklovitch. Je vous avais expliqué. Donc, dans les 10 campagnes, on a le rabbi, il a encouragé à pousser un maximum de juifs à mettre les tefilines, à pousser un maximum de juifs à avoir une mezouza à la maison, à pousser un maximum de juifs à donner la Tzedaka, à pousser un maximum de juifs à avoir donné une éducation cachère, à pousser un maximum de juifs à manger cachère, à pousser un maximum de femmes à garder la pureté familiale, à pousser un maximum de juifs à faire Ahavat Israël. Il a lancé comme ça 10 campagnes. Pourquoi il a lancé 10 campagnes? Parce qu'il avait expliqué que les 10 mitzvot qu'il a choisis, c'est des mitzvot qui ont une capacité d'avoir un impact immédiat sur la personne. Il y a d'autres mitzvot, c'est comme une graine. Tu vas planter, tu vas semer, mais ça peut prendre longtemps avant que ça va pousser. Mais il y a des mitzvot qui ont un impact immédiat. C'est pour ça que le rabbi avait lancé ses campagnes. Donc là, en tout cas, je finis avec ça pour aujourd'hui. Ce qu'on a expliqué aujourd'hui, c'est l'importance du me'asé. Si on devait retenir quelque chose d'aujourd'hui, donc Rabotai, on se rappelle, me'asé, me'asé. Me'asé, c'est quoi? C'est l'action. C'est le mal. Me'asé, c'est quoi? D'accord? Alors, me'asé, c'est celui qui fait faire à d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on a expliqué? Lequel est plus important? On a dit que les deux ont une qualité. Le ma'asé a une qualité. C'est quoi la qualité qu'il a, le ma'asé? C'est que concrètement, comme on l'a encouragé, donc il est chaud. Ça vient d'en haut. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on avait expliqué? Si ça vient pas du bas, si ça vient pas de lui, qu'est-ce qui va se passer? Ça tiendra pas. D'un autre côté, on a dit que quand ça vient du bas, c'est un processus qui prend très très longtemps et qui est vraiment à petite dose. Mais qu'est-ce qu'on a expliqué? C'est quelque chose qui est durable. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ici? Qu'est-ce qu'on doit retenir d'aujourd'hui? Ce qu'on doit retenir, c'est que quand on a quelqu'un qui est loin de la Torah, et qu'on se pose la question, on se dit peut-être, je vais d'abord rentrer dans des débats idéologiques avec lui pour savoir est-ce que c'est intéressant de faire les mitzvot ou de pas faire les mitzvot. Le rabbi disait toujours, les débats, il faut les laisser pour plus tard. Quand des fois des gens, ils voulaient rentrer dans des débats, et une fois un professeur qui est niftar il y a 2 ans, le professeur Green, à la Vache à l'homme, et quand il a commencé à faire teshuva, il a écrit un professeur très important aux États-Unis, à la NASA. Il a écrit une longue lettre au rabbi, avec plein de questions, des questions, d'abord des questions sur la vie, sur l'éducation, et des questions idéologiques sur la Torah. Le rabbi lui a répondu à toutes les questions, sauf aux questions idéologiques. Elle dit, ah, le rabbi, il veut éviter. C'était des bonnes questions qu'il a posées, en plus, des questions très profondes. Elle dit, ah, le rabbi, il veut éviter mes questions, parce que. Et le rabbi, il n'a pas répondu. Et comme ça, à chaque fois, lui, il n'osait pas le rappeler au rabbi, ils se sont vus plusieurs fois, etc., il n'osait pas le rappeler au rabbi. 2 ans plus tard, il a annoncé au rabbi, il a dit, rabbi, je vous annonce la bonne nouvelle, que Baruch HaShem, maintenant, on a inscrit nos enfants en école juive, et que maintenant, pour les vacances, nos enfants, ils vont les passer dans un camp, ils appellent ça en Amérique, ils appellent ça un camp, dans un camp, qui est cachère, etc. Et là, le rabbi lui répond, j'ai vu la lettre, hein, j'ai vu la copie de la lettre. Le rabbi lui répond, il lui dit, vous m'avez fait très plaisir quand j'ai appris que Baruch HaShem, ça porte ses fruits, que maintenant, vos enfants vont être en école juive. Il dit, maintenant que je vois ça, maintenant, je vais vous répondre aux questions que vous avez posées il y a 2 ans. Et il lui a dit, je suppose que vous êtes posé la question, pourquoi j'ai pas répondu il y a 2 ans? Il a dit, parce qu'il y a 2 ans, j'avais l'impression que si on était en train dans un débat, ça allait être un débat qui allait être purement idéologique. Et il dit, les débats purement idéologiques, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui compte, c'est les débats qui amènent à l'action. Mais il y a 2 ans, le débat n'aurait pas amené à l'action. Il fallait d'abord commencer avec l'action. Il dit, maintenant, je sens que vous êtes prêts pour que je vous réponde idéologiquement et que l'idéologie va amener à l'action. Et là, il a répondu. C'est ce qu'on est en train de dire ici. C'est-à-dire que l'idéologie, c'est bien, mais il faut laisser pour plus tard. Nous, ce qu'il faut, c'est être mais assez. Ça veut dire être le plus tôt possible indépendant et encourager d'autres personnes à faire et pousser des personnes à rajouter un maximum de mèches. Chaque fois que tu invites une personne Shabbat à la maison à table, chaque fois que tu l'encourages à mettre tes tefilines, chaque fois que tu l'encourages à mettre tes mezuzot, chaque fois que tu lui donnes une pièce de tzedaka pour mettre. T'as des gens, des fois ils tournent, ils disent, tenez monsieur, mettez la tzedaka. Ma boule ou quoi? Il te donne 5 centimes. Pourquoi il vient de faire une mitzvah, le bonhomme. Tu viens de lui rajouter une mèche. Tu viens de lui rajouter une mèche. C'est comme ça. Et ben chaque mèche que tu rajoutes, ça aide la personne à augmenter sa flamme, et si sa flamme elle augmente, ça l'aidera à faire tes chouas. D'accord? Ça c'était pour le premier aspect de ce cours. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, en fait on n'est même pas arrivé à où je voulais arriver. Ouais. On a simplement commencé le concept de me'asé, ça veut dire le fait que faire. D'accord? Moi je voulais arriver à l'importance que la Gemara Zaken va expliquer sur le fait que quand on avance dans les mitzvot, il faut apprendre à devenir, on a dit tout à l'heure, il faut apprendre à devenir autonome. L'autonomie dans les mitzvot. L'autonomie, le fait de ne plus attendre d'instruction, de ne plus attendre d'ordre, d'être, de devenir mal dans les mitzvot. D'accord? Mal avec un E à la fin. Ça, on n'a pas encore développé. D'accord? Ça, on n'a pas développé. Et ça, mais de toute façon, c'est très compliqué parce que c'est très compliqué de donner une indépendance tout en s'assurant que les choses vont bien se passer. Ça, je pense, il nous faut encore au moins un cours sur ça. Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Et avec ça, on finira la semaine prochaine. Igaret HaKodesh.
Birkat, page 375.
Attends. Pourquoi? Non, laissez. C'est bon.